Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 28 juin, matinale spéciale aujourd'hui au lendemain du second tour des élections régionales et un double échec, celui du Rassemblement National et celui de La République En Marche. La victoire des sortants, une abstention qui reste à un niveau record. On en parlera, Léa, avec nos invités ce matin. On commence avec, à 7h15, le porte-parole de La République En Marche, Roland Lescure, président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.
À 7h50, c'est le maire Rassemblement National de Perpignan, Louis Alliot, qui sera avec nous.
Oui, à 8h20, la porte-parole du Parti Socialiste et maire de Nantes, Johanna Roland.
À 8h30, ça va faire plaisir à Charline, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
Et à 8h50, pour boucler cette matinale, le politologue Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos. Voilà pour le programme. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Les autres titres.
Le brevet des collèges pour plus de 800 000 élèves de 3e aujourd'hui et demain. Et puis les Bleus en 8e de finale de l'Euro ce soir face à la Suisse. Un Euro qui se joue désormais sans les tenants du titre. Les Portugais de Ronaldo éliminés par les Belges hier soir.
France Inter.
Le sermon de Marine Le Pen au soir du premier tour n'y aura rien changé. Les électeurs du Rassemblement National ne se sont pas plus déplacés au second tour. L'abstention d'ailleurs est restée très forte, autour de 66%. Et dans la seule région où l'extrême droite était arrivée en tête le 20 juin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'échec est retentissant. C'est Renaud Muselier pour les Républicains qui s'impose avec plus de 57% des suffrages grâce au Front Républicain qui, une nouvelle fois, empêche le RN de briser le plafond de verre. Élodie Fauré était à Marseille hier soir.
Le Front Républicain, objet de toutes les colères hier soir. Colère de Thierry Mariani qui la voit blême et la mine grave, prend la parole vers 22h.
Le système coalisé l'a emporté au terme d'une campagne qui n'honore pas nos adversaires.
Colère aussi des militants.
Ils font des accords.
Sylvie, adhérente et candidate au départemental.
Ils s'arrangent au premier tour. Ça vous dérange pas, vous ? Que les partis qui se tapent dessus, puis ensuite, ils sont d'accord ?
Un Front Républicain qui a fonctionné et risque de fonctionner encore, soupirent ses militants, même si tous essaient de garder espoir pour la présidentielle. Valentin, candidat sur le canton d'Istre.
Au final, d'ici à la fin de l'été, en septembre, quand le tourbillon de l'élection présidentielle va commencer, bon, ce résultat des régionales sera derrière et on laissera place à de nouveaux enjeux, de nouveaux débats qui n'ont rien à voir avec les enjeux régionaux.
Du coup, il n'y a pas de remise en cause à avoir.
Je crois qu'il ne faut pas surinterpréter. Je crois vraiment qu'il faut garder la tête froide. Et ensuite, une fois qu'on aura plus de détails, notamment sur l'analyse de l'abstention, qui s'est abstenu, quel électorat, là on pourra tirer des conclusions, mais voilà, pas de conclusions hâtives.
À chaud, Thierry Mariani, lui, ne livrera pas d'autres conclusions, claquant littéralement la porte au nez des journalistes.
Élodie Fauré, un second tour sans surprise pour ces élections régionales, avec une prime confirmée donc pour les élus sortants. Xavier Bertrand, réélu dans les Hauts-de-France avec 53% des suffrages, et qui entame dès ce matin une campagne pour la présidentielle de 2022, on y reviendra dans le journal de 8h. Réélu aussi Valérie Pécresse en Ile-de-France avec 46% des suffrages. La gauche rassemblée autour de Julien Bayou est à 33%. Et pour compléter ce trio de leaders de la droite, Laurent Wauquiez avec plus de 55% des suffrages en Auvergne-Rhône-Alpes. Mathilde Imberti.
Un discours de président reconduit sans aucune ambiguïté et une main tendue aux Français en général. C'est un Laurent Wauquiez confiant qui prend la parole devant les élus et les militants.
C'est la victoire d'un cap clair. C'est aussi la constance des convictions, la défense des classes moyennes, le refus de tout compromis par rapport au communautarisme, la sécurité. Les Français sont exaspérés quand on ne réagit pas par rapport à ce qui dégrade la France. Les Français attendent cela. Ils attendent du courage, ils attendent le chemin du bon sens et ils attendent la reconstruction pour notre pays.
Il domine le paysage régional, laissant la gauche loin derrière et le Rassemblement National exsangue. Un électeur sur quatre votait pour le parti de Marine Le Pen en 2015, un sur huit en 2021. Ses soutiens y voient une bonne raison de se relancer au National.
C'est celui qui a le mieux contenu les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche, et en face un Rassemblement National qui s'effondre. Donc ça dit énormément de choses. Je pense que ce résultat, c'est le résultat de travail, de cohérence et d'une ligne claire.
C'est un score magnifique et pour moi aujourd'hui, au sein du parti, Laurent Wauquiez est totalement légitime.
Laurent Wauquiez a fêté la victoire voir en extérieur avec ses militants, sa famille, jusqu'à tard hier soir. Mais dès ce matin, 10h, retour aux affaires avec un déplacement en gare de Lyon-Pardieu sur un thème, sans surprise, la sécurité. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Réélu aussi Christelle Morancé en Pays de Loire, Jean Rottner dans le Grand Est et Hervé Morin en Normandie. À gauche, c'est elle la patronne, la socialiste Carole Delga, réélue à la tête de la région Occitanie avec près de 58% des voix. Carole Delga, candidate de terroir et élue de terrain, portrait signé Bénédicte Dupont.
C'est son fonds de commerce jusqu'à presque la caricature, diront les médisants. Le Comminges, Martre-Tolosane, ses Pyrénées, son clocher, un pédigré d'Occitane, un accent qu'elle revendique, ce peuple du Sud qui le lui rend bien et une terre qu'elle connaît par cœur, elle qui passe sa vie dans sa voiture de fonction aménagée avec mini-dressing et bureau intégré. Dans la deuxième région la plus grande du pays, en haut les Pyrénées, en bas la Méditerranée, le chef Delga a dû concocter une cuisine terre et mer sans fausse note. Le défi aussi de marier deux anciennes régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qu'on disait peu compatibles avec des languedociens sceptiques et des catalans allergiques à l'Occitanie. 5 ans après, les voix dissonantes se sont tues, même sur ce littoral où l'extrême droite a pris ses aises. Carole Delga a montré avec fermeté qu'elle était la patronne, la présidente de région la mieux élue de France et une socialiste incontournable en province à 9 mois de la présidentielle.
Bénédicte Dupont de France Bleu Occitanie, à gauche encore 5e mandat pour Alain Rousset, réélu en Nouvelle-Aquitaine. Réélu aussi François Bonneau en Centre-Val-de-Loire, Marie-Guy Dufay en Bourgogne-Franche-Comté et Loïc Chesnais-Girard en Bretagne, même si lui n'a qu'une majorité relative. Et puis la Réunion bascule à gauche grâce à Huguette Bello. Dans ce contexte, peu de place pour les candidats de La République En Marche. François de Rugy perd du terrain en Pays de Loire, tout comme Laurent Saint-Martin en Île-de-France. Marc Fresneau, le ministre des Relations avec le Parlement, termine à la 4e place en Centre-Val-de-Loire. Un message que n'a visiblement pas envie d'entendre le chef de l'État, qui repart sur le terrain dès ce matin, sur les terres de Xavier Bertrand, à Douai dans le Nord, sur le site d'une future usine de batteries électriques. Simon Le Baron.
C'est la stratégie des bonnes nouvelles. Lundi dernier, lendemain de premier tour, c'était fête de la musique à l'Élysée, parfait pour célébrer le retour à la vie. Aujourd'hui, ce sont ces 1000 emplois créés dans le Nord d'ici 2024. Et dans la foulée, le sommet Choose France, une centaine de patrons étrangers réunis à Versailles, idéal pour vanter la relance et l'attractivité de la France. Sa gestion de la crise sanitaire, sa politique économique, il le sait, c'est là-dessus qu'il sera jugé l'année prochaine, pas sur le résultat des régionales. Alors quand son allié François Bayrou lui demande de ne pas passer par-dessus l'élection, un coup de semonce selon le président du MoDem, Emmanuel Macron fait tout le contraire. Il ne faut pas tirer de conclusions nationales d'élections locales, répètent ses conseillers. Et s'il y a un remaniement, ce sera à la marge. Ne surtout pas laisser penser que le doute s'est emparé du sommet de l'État. Le président envisage une prise de parole solennelle avant la mi-juillet pour fixer les grandes orientations de sa fin de quinquennat. À l'Élysée, les régionales sont déjà oubliées. C'est bien vers 2022 que tous les regards sont tournés.
Le terrain aussi pour Jean Castex. Le Premier ministre est attendu à Clos-sur-le-Loir, près de Châteaudun, en Eure-et-Loire, cet après-midi, pour une visite de l'usine de production de robots ménagers Thermomix. Quant aux élections départementales, peu de surprises, si ce n'est le Val-de-Marne, département communiste depuis 1976, fief historique de Georges Marchais, qui bascule à droite. Passent à droite également le Puy-de-Dôme, le Finistère et les Alpes-de-Haute-Provence. La gauche, elle, s'impose dans les Côtes-d'Armor. À noter aussi l'élection en Corrèze de Claude Chirac dans le canton de Brive-2, tenu par sa mère durant 36 ans. Le second tour des élections régionales, matinale spéciale sur Inter avec le premier invité du 7-9 dans quelques minutes à 7h15.
Oui. Roland Lescure, porte-parole de La République En Marche. Il est 7h09, Agnès, c'est leur premier examen national.
Les 860 000 collégiens de 3e passent le brevet français ce matin, puis jusqu'à demain, histoire, géo, maths, sciences et technologies. Les oraux ont débuté début mai et se terminent demain. Un diplôme évalué moitié en contrôle continu, moitié par cet examen final. Et contrairement au bac, il n'a pas fait l'objet d'aménagement malgré la crise sanitaire. Les élèves de 3e ont pourtant eu une année chamboulée, comme Adrien, un élève de 3e en Seine-et-Marne, qui s'est confié à Sonia Princé.
Adrien a eu cours de physique, chimie et de SVT par visioconférence pendant toute l'année scolaire. Et pourtant, il passera l'épreuve de sciences comme si de rien n'était.
C'est quand même 25 points pour l'épreuve de SVT, 25 points pour l'épreuve de physique. Donc c'est quand même assez important.
Mais c'est surtout pour les autres matières qu'il s'inquiète. Son collège était en demi-jauge pendant un mois.
Au niveau des mathématiques et français, qui sont du coup les deux plus grosses matières pour le brevet, on a eu du coup moins de cours et on est moins bien préparé. On était un peu juste pour finir le programme. Donc forcément, on a moins de révisions, donc moins de chances de réussir par rapport à d'autres collèges ou d'autres départements. Je crois que les épreuves ne sont pas plus faciles que les autres années, donc les résultats vont forcément être plus faibles.
À ses côtés, sa maman Hélène trouve Adrien un peu trop décontracté.
Moi, je trouve qu'il ne travaille pas assez, donc bon... C'est vrai que je pense qu'avec la demi-jauge et puis avec le confinement, les élèves ont perdu les habitudes de travail. Parce que moi, je vois que mon fils était sérieux quand il était au collège, il rentrait, il faisait ses devoirs. Mais avec le confinement, l'ordinateur, c'était plus fait pour jouer que pour travailler. Donc c'est surtout au point de vue habitudes de travail que j'ai l'impression qu'ils ont perdu le rythme.
Pour un premier examen national, les conditions ne sont pas idéales, selon Hélène, qui regrette que le ministère n'ait pas aménagé les épreuves, comme pour le bac.
Les résultats entre le 7 et le 9 juillet, les élèves connaîtront alors leur affectation au lycée. Attention, si vous avez prévu de prendre le train ou l'avion cette semaine, plusieurs appels à la grève sont lancés, notamment chez Aéroports de Paris. Mobilisation à partir de jeudi et jusqu'à lundi prochain. Les syndicats réclament notamment l'annulation du plan social prévu chez ADP. Les cheminots CGT appellent de leur côté à la grève à la SNCF pour la seule journée de jeudi prochain. Au nom des salaires, pas de prévision de trafic pour l'instant. Des risques d'orage cet après-midi dans le centre-est. 4 départements vigilance orange par Météo France, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône. Un Poulidor en jaune. Il aura fallu attendre le petit-fils de Raymond, Mathieu Van Der Poel, en larmes hier à l'issue de la deuxième étape du Tour de France qu'il a remporté, se hissant ainsi à la tête du classement général. Troisième étape aujourd'hui entre Lorient et Pontivy. Et puis grosse déception pour l'équipe de France féminine de basket qui échoue en finale de l'Euro, battue 63-54 par les Serbes. Cinquième défaite consécutive pour les Françaises en finale d'un championnat d'Europe. L'Euro de foot et une première grosse surprise en huitième de finale avec l'élimination hier soir des tenants du titre, les Portugais de Cristiano Ronaldo, battus par les Belges 1-0. Les Belges qui rencontreront les Italiens en quart de finale. Surprise aussi avec la victoire des Tchèques 2-0 sur les Pays-Bas. La République tchèque qui affrontera le Danemark en quart de finale. Et puis, la France joue ce soir son huitième de finale face à la Suisse, avec un statut de favori pas toujours facile à porter. Cédric Guillou.
C'est généralement un énorme basculement de passer des rencontres de poules à ces matchs couperets où les équipes n'ont pas le droit à l'erreur. Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore.
Il y a une première phase où on a obtenu ce qu'on voulait, la première place qui nous offre ce match-là contre la Suisse. Quand on commence un match de poules, il y en a deux autres derrière. Là, on sait qu'on joue un match avec l'ambition et l'objectif d'être un quart.
Ces rencontres à élimination directe peuvent lancer une aventure. Il y a 3 ans, en huitième de finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, les Français avaient réalisé un match référence qui les avait portés jusqu'au sacre mondial. L'objectif, c'est de faire la même chose sur cet Euro à nouveau en huitième de finale pour le capitaine Hugo Lloris.
On peut s'appuyer sur notre vécu, sur l'expérience, mais c'est pas suffisant dans l'approche. Il faut mettre tous les ingrédients nécessaires pour aboutir à une réussite. Il faut également être prêt à relever des défis sur le plan mental et tout ça ensemble en tant qu'équipe.
Recette que les Français avaient parfaitement appliquée en Russie en 2018 et qu'ils essaieront de réitérer ce soir face aux Suisses.
Coup d'envoi de ce France-Suisse à 21h à Bucarest en Roumanie.
Merci Agnès Soubiran. Dans un instant, début de cette matinale spéciale.